Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On est devant un mur. Cherchez le moment où cesse la foi en la réalité. Alors, tout se met à trembler. Ce tremblement, ce vacillement du réel, c'est ce que Claude Régis appelle l'état d'incertitude. C'est ce moment où tous les axiomes sur lesquels reposait notre perception du monde sont subvertis, décrédibilisés. C'est un état proche de la folie, si proche qu'il se confond souvent avec elle, dans une recherche pathologique d'une vérité complètement séparée de ce que l'on appelle, avec tant de naïveté, le réel. Cet état n'arrive pas soudainement, ex nihilo. Il s'agit pour Régis de créer un chemin, de créer les conditions pour l'émergence de cet état, aussi bien chez les acteurs que chez les spectateurs. Mais Régis n'est pas un faiseur de miracles, il ne sculpte pas le vide, du moins pas seul. Il a avant tout besoin d'un texte qui résonne d'une façon complètement nouvelle, pour qu'il puisse mener à bien son hérésie théâtrale. Car c'est le texte avant tout qui permet d'atteindre cet état d'incertitude, qui n'est pas seulement celui des comédiens et des spectateurs, mais peut-être, sans doute même, celui de la personne qui écrit. Et quel meilleur exemple donner que celui de Sarah Kane, dont il met en scène 448 Psychose avec Isabelle Huppert au Bouffe du Nord en 2002. Ce n'est pas un texte qui parle de la folie, qui l'observe de loin avec les gants stérilisés du dramaturge intellectuel. C'est un texte écrit dans la folie, à partir de la folie, du point de vue même de la douleur aiguë et incroyablement violente que provoque ce vacillement constant du réel, comme une lucidité maudite et pathologique. C'est de ce spectacle que parle précisément Claude Régis dans ce numéro du jour au lendemain d'Alain Weinstein. Il raconte notamment sa découverte, un soir d'insomnie, de ce texte qui essouffle et estomaque, dégageant une puissance inouïe tout en s'ancrant dans une forme d'abstraction absolument unique. Du silence au cri, du texte à la scène, Sarah Kane par Claude Régis, c'est tout de suite, dans un entretien diffusé pour la première fois le 6 novembre 2002.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Claude Régis, qui publie « L'état d'incertitude » aux éditions « Les solitaires intempestifs ». Noir sur blanc et bleu.
Thank you.
Pour commencer notre entretien, Claude Régis, j'ai choisi volontairement cette petite phrase que vous avez placée en exergue à votre livre « L'état d'incertitude ». C'est une phrase de Sarah Kane. Et bon, vous vous doutez pourquoi ? Parce qu'il se trouve que les représentations ont commencé. La dernière fois que nous en avons parlé, c'était à Avignon pendant le festival l'été dernier. On vous avait consacré toute une journée sur France Culture, qui a été ensuite diffusée dans Surpris par la nuit. Et c'était un peu à l'occasion de vos 50 ans de théâtre, parce qu'on s'était rendu compte, après avoir déjà commencé la préparation de ces rencontres, qu'en fait, oui, l'année 2002 correspondait exactement.
C'est un fait indéniable.
Vous ne contestez pas.
Non, je ne peux pas.
Donc nous ne sommes plus dans la certitude.
Mais aussi.
À cette époque-là, donc, vous aviez commencé la préparation de ce spectacle avec Isabelle Huppert.
Oui, bien sûr. On avait même commencé les répétitions. On a fait des lectures autour de la table pendant 2 semaines avant ce mois de juillet. Et on a ensuite repris à la fin du mois d'août pour présenter le spectacle le 1er octobre.
Et je me souviens que vous nous aviez dit que c'était un texte que vous aviez lu un jour, au milieu de la nuit.
Oui, c'est vrai, c'était une période de travail. C'était le moment du carnet d'un disparu. On avait déménagé de Bruxelles à Aix-en-Provence. Et on était donc en plein travail. Mais j'avais emporté ce manuscrit et j'avais très grande curiosité de le lire. Et il se trouve que j'ai eu une nuit d'insomnie. Donc je l'ai lu comme ça, d'un coup, à l'aube, dans un état un peu particulier, et il m'a foudroyé. Et j'ai senti là une nouveauté absolue, comme si quelqu'un avait trouvé un autre endroit où vivre, où mourir, et un autre endroit donc d'où elle parle, et elle arrive ainsi à nous atteindre avec des vérités que nous reconnaissons, mais qui sont abordées sous un angle dont il semble qu'on ne l'ait jamais abordé. C'est quelque chose de très nouveau parce que l'écriture est aussi énormément dans la poésie. C'est-à-dire que la typographie même fait sens, qu'il y a énormément de blanc qu'il faut respecter. Il y a des phrases déportées, il y a des couplets avec majuscules, il y a des moments de prose, il y a des changements de ton, il y a comme des collages de textes. Presque. Mais en tout cas, c'est une écriture où souvent des verbes sont alignés sans conjonction ou des listes de médicaments. Donc c'est une écriture qui repose énormément sur les rythmes, sur les sonorités, donc qui pose problème de traduction évidemment énorme. Mais en fait, il s'agit d'un poème et il s'agit de montrer que le poème peut être théâtre.
Oui. Et c'est un texte qui projette en fait dans l'œuvre entière de Sarah Kane.
Oui, je pense, elle dit elle-même qu'il y a un véritable chemin entre ces 5 pièces qui d'ailleurs sont allées vers une décantation plus grande, c'est-à-dire que les 2 dernières œuvres sont vraiment, de son propre dire, des travaux sur le langage et à partir de la langue. Ce sont vraiment des travaux d'écriture et c'est vraiment faire du théâtre l'organe où la langue peut se manifester et que si la langue se manifeste dans une certaine écriture, elle est théâtre en elle-même. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs très vite dans l'œuvre, rien qu'un mot sur une page et il y a le théâtre.
Et on voit que la réalité n'est pas conforme aux catégories qu'on a l'habitude d'appliquer et d'admettre.
C'est un des grands intérêts de son œuvre, c'est de faire sauter les limites tout azimut, c'est-à-dire entre la vie, la mort, entre le masculin, entre le féminin, entre toute idée qu'on pourrait avoir du bien et du mal, ou d'une division du corps et de l'esprit. Là, il s'agit d'ailleurs de cette très fragile feuille de papier qui séparerait la raison ou les gens sensés de ce qu'on appelle la maladie mentale, la folie ou les gens insensés qu'on remet aux mains de spécialistes, qui se disent spécialistes, qui sont des psychiatres ou des psychanalystes, selon, et qui prétendent guérir ou soigner, et qui ne savent pas, comme elle le dit elle-même, l'angoisse que les médecins ne savent pas soigner et qu'ils ne veulent même pas comprendre. Mmh. Et que le matraquage de drogue, qui certainement apporte un espèce de calme, encore que j'ai appris avec terreur que les principaux antidépresseurs accentuent les tendances suicidaires, ce qui fait quand même extrêmement peur. Donc cette frontière n'est pas où on le croit. Et c'est intéressant parce qu'en travaillant sur le spectacle Mélancolia à partir du roman de Faust, j'avais finalement approché d'une manière concrète cette idée que je devais avoir déjà, mais je m'en étais pas à ce point rendu compte. C'est-à-dire que finalement c'est très proche l'acte de créer, d'écrire, d'inventer, de s'abandonner à un délire imaginaire qui évidemment est fait de réalité, qui ne peut partir que de la réalité, qui est donc comme une déformation de la réalité. Il n'y a pas grande différence entre ce qu'on appelle l'état délirant des malades et l'invasion justement d'un monde imaginaire incontrôlé. La différence, c'est que dans le cas de la maladie, ça peut créer des labyrinthes, des nœuds extrêmement compliqués. Et il y a un tel développement du monde symbolique que ça devient très douloureux ou quasiment impossible à vivre. Alors que dans l'écriture, d'ailleurs, que ce soit, je pense, ça peut s'étendre à d'autres formes de création, que ce soit des arts plastiques, de la peinture ou de la musique. Le délire, le mélange de folie imaginaire, de liberté rendue aux démons, aux chevaux fous, tout ça, on en fait une œuvre. Mais la différence est fragile. Mmh. S'il y a une différence, peut-être qu'il n'y en a pas.
Et comment voyez-vous vivre ce texte de Sarah Kane, 448 psychoses, entre le moment où vous l'avez découvert à la simple lecture, puis pendant les répétitions et enfin pendant les représentations? Parce qu'on sait que vous assistez généralement à toutes les représentations,
oui,
d'un spectacle.
Là, encore plus qu'ailleurs, parce que je pense que c'est un texte immédiat. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Elle dit qu'elle écrit aussi pour les morts, et on a l'impression de l'entendre parler. Elle parle d'ailleurs à la première personne, et même au moment de mourir, elle dit « Regardez-moi disparaître ». Elle fait donc à la fois spectacle de sa fin, mais elle fait aussi spectacle de son écriture elle-même. Et qu'elle s'adresse à des gens qui sont là. Et s'il y a contestation d'une société qui se dit bien portante en montrant des signes évidents, on n'y a qu'à écouter les informations tous les jours, que nos sociétés sont extrêmement malades, se portent extrêmement mal, et que probablement ceux qui les dirigent, nos sociétés, je nomme les chefs d'État, sont des très grands malades, et pour la plupart extrêmement dangereux, comme on le voit mettre
oui,
le
c'est
monde
le problème,
en péril.
C'est qu'ils ne sont pas sur une scène de théâtre.
Non, ils sont sur une scène de théâtre.
Au royaume de Danemark.
Mais c'est très difficile de les déloger de là où ils sont. Alors, cette présence du public est essentielle dans l'œuvre de Sarah Kane, parce qu'elle dit aux gens, elle fait sentir très bien la fragilité de cette frontière, et elle fait sentir que les malades ne sont pas forcément du côté où on les place. Et que donc il y a une prise de parole directe, c'est écrit à la première personne pendant qu'on est en train quasiment de mourir, et on demande aux gens de se regarder eux-mêmes et de regarder autour d'eux qu'est-ce que devient cette collectivité qu'ils ont créée. Mmh. Et donc tant que le public n'est pas là, on ne peut quasiment pas faire le travail. On peut le répéter, on peut le travailler, on l'a fait, évidemment. Et il faut trouver le ton, la justesse, la simplicité, la non-théâtralité, et aussi la musicalité, c'est-à-dire le travail des rythmes, et aussi respecter énormément les blancs, c'est-à-dire respecter énormément les silences. Et on voit, d'ailleurs, très, très clairement dans le spectacle, peut-être aussi beaucoup grâce à la force de la de la présence d'Isabelle Huppert et au magnétisme exceptionnel qu'elle a, qu'elle tire du sol et qu'elle transmet à l'assemblée qui est là. Et on voit la force de cette parole. On a travaillé pour que chaque phrase entre comme un fer rouge et retourne la conception que les gens ont d'eux-mêmes, de leur vie et du monde où ils vivent.
Elle vous surprend, Isabelle Huppert ?
Oui. Oui, quand on travaille, c'est toujours étonnant d'entendre quelque chose précisément dont on ne sait pas d'où ça vient. Je crois que déjà, c'est là qu'on décèle les vrais comédiens. C'est ceux où le travail n'est pas reconnaissable. Tant qu'on voit comment c'est fait, tant que c'est l'imitation d'autres acteurs ou l'imitation de la réalité ou du naturel.
Ou d'eux-mêmes.
Ou d'eux-mêmes, ou la répétition d'eux-mêmes par eux-mêmes, ça n'a strictement aucun intérêt. Quand quelque chose est vraiment inventé dont on ne peut pas dire la source, alors commence vraiment à exister un comédien. Et la grande force aussi, c'est la possibilité de réimproviser chaque jour. C'est-à-dire que c'est un phénomène encore bizarre. Évidemment qu'on fait plus ou moins la même chose, qu'on est dans le même lit. Mais en même temps, à chaque instant, c'est parfaitement créé, c'est parfaitement inventé, ça n'est en rien refait. Mmh. Et elle-même le dit, et c'est quelque chose qui est recommandé toujours aux comédiens, c'est-à-dire dès qu'on sent qu'on rentre dans un rail, qu'on répète quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on va recommencer à se recopier, il vaut mieux s'arrêter, faire un blanc, faire un silence, attendre, calmer, refaire le vide. Et repartir avec une source tout à fait neuve.
Où est-elle quand elle quitte la scène chaque soir ? Est-ce qu'on peut lui parler ?
Qui donc ?
Isabelle.
c'est assez facile, elle aime bien qu'on vienne la voir, elle aime bien parler, elle aime bien entendre des échos de ce qui vient de se produire.
Elle n'a pas besoin de faire un petit peu le vide ?
Pas du tout. C'est le contraire. Au début, j'avais pensé qu'il fallait la protéger un petit peu. Mais non, elle a besoin, au contraire, immédiatement d'un contact vivant et de rentrer de nouveau en rapport avec la vie des gens qui parlent.
Parce que le théâtre, c'est un peu la mort. Hein. C'est lié à la mort, quand même. La mort qui est très présente dans votre théâtre, Claude Régis.
Oui, c'est un phénomène étrange qui, c'est toujours très difficile d'en parler. J'ai lu ça chez beaucoup d'écrivains, chez Sarah Ken elle-même, puisqu'elle dit qu'elle écrit pour les morts et ceux qui ne sont pas encore nés, ce qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes, même s'ils se rejoignent dans une interzone où nous n'avons pas accès. Mais par une espèce de mystère, il est probable que toute écriture... Quelqu'un a dit ça, je crois, que les écrivains, en fait, parlaient de leur mort avant d'être morts. Donc, il y a une relation, certainement, qui est dans la mythologie aussi, qui est à l'origine du théâtre, qui est dans le démembrement de Dionysos, par exemple, et le culte de remembrement par l'ingestion d'une victime découpée en morceaux et ingérée par les bacchantes. Il y a que nous vivons, on le sait, ça c'est la science qui le dit, complètement déterminé par les gènes à 50% maternels, à 50% paternels. Il y a donc des bibliothèques là, très anciennes, de livres très anciens qui sont déposés en nous. Et je vois aussi à quel point nous naissons dans des cités, dans des paysages qui ont été faits par des gens qui n'existent plus. Et ce n'est pas nous, en naissant, qui inventons un monde et qui construisons des villes et qui labourons des champs ou abattons des forêts.
y a donc ce spectacle, Claude Régis, 448 psychoses de Sarah Kane, avec Isabelle Huppert au Bouffe du Nord jusqu'au 9 novembre. Mais je crois que c'est assez difficile de trouver des places maintenant.
Je crois que ça n'est plus possible, sauf à la dernière minute, en venant au guichet, il y a toujours des gens malades, il y a toujours des gens en retard, qui n'arrivent pas à garer leur voiture, donc ceux qui attendent devant la porte peuvent prendre leur place.
En attendant, on peut lire aussi le livre qui vient de paraître, qui s'intitule « L'état d'incertitude » et qui est publié aux Solitaires intempestifs. Alors, il se trouve que c'est votre troisième livre. C'est pas tellement trois livres, au fond, pour 50 ans de théâtre. Le premier, c'est « Espace perdu », qui date de 98. Le second, « L'ordre des morts », 99. Et aujourd'hui, ce volume, « L'état d'incertitude », qui, comme les précédents, est une suite de texte écrit pendant la préparation de vos spectacles.
Oui, c'est, soyons pas hypocrites, c'est vous qui avez déclenché ce premier livre en demandant des notes, des réflexions sur le travail. J'étais assez intimidé de le faire. En fait, j'ai repris plutôt des articles ou des interviews, des choses qu'on avait faites autour des spectacles. Et comme c'était la première fois que je le faisais, que je faisais déjà du théâtre depuis très longtemps, ça couvrait beaucoup d'œuvres et ça couvrait beaucoup d'années. Et après, j'ai eu envie, à la demande un peu de Solitaires intempestifs, de continuer à écrire sur les spectacles plus récents. Et là, avec les spectacles qu'on appelle les spectacles de Nanterre, c'est-à-dire quelqu'un va venir qui a révélé Yon Fosse, et cette pièce que j'aime infiniment, qui reste presque unique d'ailleurs, qui est l'œuvre d'un très jeune homme, Les couteaux dans les poules de David Harrower, puis avec ce travail sur le roman de Yon Fosse, très différent de la pièce, le roman qui s'appelle Mélancolia, et qui est déjà un tout petit peu en préparation de psychose. Et j'ai eu envie d'écrire sur ces trois spectacles parce que j'avais cru justement mieux comprendre que dans l'écriture contemporaine, on revenait à des choses que Montaigne avait déjà formulées très bien sur l'incertitude, que les astrophysiciens confirment en termes très clairs, puisqu'ils ont édicté un principe d'incertitude ou un principe d'indétermination, qui est donc une approche tout à fait autre de la réalité. Mmh. Et je pense qu'après des décennies de temps où on a cru qu'il y avait une vérité au monde, ou au maximum deux vérités qui se battaient l'une contre l'autre, on s'est aperçu que les choses sont plus complexes que ça. Et que je crois que c'est très important pour la littérature, et spécialement très important au théâtre, de rétablir une vérité beaucoup moins sûre, beaucoup plus complexe, beaucoup plus contradictoire et surtout beaucoup plus ouverte. Oui. C'est ça qui me paraît très très important, c'est de rester dans la bifurcation multiple, de ne jamais conclure, de ne jamais s'arrêter, et même de laisser, il me semble que j'ai mieux découvert ça ces dernières années, comme les choses suspendues encore dans le monde des possibles, et pas du tout d'essayer de réaliser une œuvre incarnée qui a l'air d'être réelle, de copier la réalité, de rester vraiment dans le monde de l'imaginaire, dans le monde des possibles. Mais là aussi, l'astrophysique décrit le vide comme un champ de possible, décrit la lumière comme un champ de possible. Donc nous travaillons dans le vide et dans la lumière, et nous travaillons sur un champ de possible qu'il ne faut jamais réduire à une seule réalité.
C'est vrai que dans l'état d'incertitude, vous vous référez à la physique quantique comme d'autres auraient préféré faire allusion à de vieux poètes. Et dans ces rencontres d'Avignon dont nous parlions tout à l'heure, vous aviez souhaité justement dialoguer avec un astrophysicien, Michel Cassé, c'est-à-dire introduire cette dimension-là aussi de l'invisible.
Oui, c'est très intéressant, tout ce travail sur les particules virtuelles, justement, qui remplissent le vide, qui font que le vide n'est pas vide, et que la physique quantique a tellement reconsidéré le matérialisme classique et a tellement reconsidéré l'idée de réel. Et c'est une idée de base, cette idée du principe d'incertitude, qui est très proche du théâtre, parce qu'il s'agit de se rendre compte qu'un dispositif d'observation, fût-il une personne, ce dispositif d'observation agit sur ce qu'on observe. Donc l'observation est forcément fausse. Et il n'y a que en rapprochant des observations fausses qu'on peut essayer de repérer des lois, mais en tout cas sans du tout prétendre atteindre ou définir le réel, ou même être en contact avec le réel. Mmh. Et c'est tout à fait ce qui se passe en représentation, parce que la même chose, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de représentation. La représentation n'est pas sur le plateau. Et c'est un échange de cerveaux, de la masse de gens qui sont là, qui sont un nous très étrange, qui a donc une perception très indiscernable de ce qu'ils imaginent en voyant et en entendant ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Alors ces gens s'en vont, ne se connaissent pas, ne se revoient plus, d'autres gens viennent et tous les publics de chaque soir ne croisent pas le public des soirs précédents. Donc de quoi est fait cette foule qui s'en va avec l'imagination de la représentation.
En fait, le vrai public, c'est celui qui viendrait tous les soirs, quoi. Ça serait les mêmes spectateurs.
Non, je crois que c'est justement un public impalpable. C'est-à-dire, c'est une circulation. Alors, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a, Dieu merci, des fuites. C'est-à-dire que cette matière impalpable qui s'étire entre des cerveaux qui se promènent, on ne sait pas où, se communique à des gens qui, eux, n'ont même pas été en relation avec le spectacle. Comme des livres agissent très au-delà du nombre de lecteurs qui les lisent. C'est absolument flagrant. Et donc, on rejoint ce fait qu'il n'y a pas, on peut pas dire qu'une représentation est un chef-d'œuvre ou que c'est beau. Ce n'est rien. Ça n'a pas d'existence. C'est une proposition à l'imaginaire qui reste flottant dans des imaginaires d'une manière complètement indéterminée, puisqu'on ne peut pas réunir ces imaginaires et leur demander de s'en expliquer. Mmh.
Donc le théâtre, ça serait aussi un travail sur la réalité du virtuel.
Absolument, mais ça me paraît tellement évident. Et je crois que comme la physique quantique, je prétends être une révolution totale du théâtre, parce que pourquoi perd-on son temps? Pourquoi la majorité de tous les hommes de théâtre et de tous les publics de théâtre perdent leur temps à piétiner dans l'imitation d'une réalité dont il est prouvé en fait qu'elle n'existe même pas? Donc il faudrait quand même réfléchir à ce qui se passe dans le monde. Et si la physique quantique renouvelle à ce point les choses, elle a besoin d'un nouveau vocabulaire. C'est pour ça d'ailleurs que les écrivains, et Cassé en est un excellent exemple, ils se réfèrent à la poésie. Hein. Oui. C'est Houellebecq qui dit ça. Finalement, ils ont une science qui est tellement indéfinissable, qui est impossible à dire. Donc ils sont obligés d'inventer une poésie, en fait. Et c'est ça qui est frappant. C'est en même temps une nouvelle vision du monde qui fait rendre compte à quel point notre vision était fausse. Et en même temps, c'est la nécessité d'inventer un nouveau langage pour parler de cette nouvelle science. Et je pense que pour parler d'une nouvelle écriture, on le sent pour Sarah Ken. On peut pas parler de Sarah Ken, on peut pas réduire Sarah Ken en faisant une étude comme on fait pour la faire rentrer à la faculté, pour la faire rentrer à l'université, oui, en expliquant ses principes et ses thèmes. Il faut parler d'un autre endroit, il faut parler autrement, il faut inventer un autre langage. On ne peut que parler poésie.
Michel Cassé dit que la connaissance des choses visibles introduit à celle des choses invisibles, mais vous pensez que, Claude Régis, au théâtre, on peut travailler sur une réalité qu'on ne perçoit pas?
Oui, c'est faut pas que ça devienne extrêmement prétentieux tout ça, mais c'est vrai qu'en travaillant, c'est depuis d'ailleurs ce spectacle qui a fait fuir beaucoup de gens et qui dont pour lesquels au contraire c'est un spectacle de référence, c'est La mort de Tintagile. On a commencé à parler de ça avec les comédiens, comme on touchait là, et Metterlinck d'ailleurs est assez génial, et il a été un précurseur assez extraordinaire, c'est pour ça qu'il s'est d'ailleurs intéressé à l'instinct des insectes, par exemple, pour essayer de comprendre le monde et les hommes. Et on a commencé à s'apercevoir qu'on pouvait parfaitement se parler entre nous de choses qu'on ne pouvait pas définir et qu'on ne pouvait pas dire sur quoi on travaillait. Mais que si on se mettait dans un certain état de disponibilité, dans un certain état qui développe les instincts, si on se mettait à l'écoute d'une certaine façon, donc dans un état de calme, de tranquillité, de même pas penser qu'on était occupé à faire du théâtre ni à restituer un texte, on pouvait rentrer en contact avec des choses qu'on ne savait pas. Mmh. Et on s'est mis à travailler sur cette matière sans savoir quelle elle était et sans pouvoir la définir. Et on a vu qu'on y parvenait, oui, finalement. Et
justement, dans l'un des textes de l'état d'incertitude, celui qui concerne Mélancolia Théâtre, vous dites « des particules suspendues nous attendent, nous respirons les forces du vide ». Et ce spectacle, Mélancolia Théâtre, en fait, c'est un travail que vous avez fait sur la lumière, pour parler de la lumière.
Oui, c'est vrai, c'est un travail qui m'a passionné, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre-là, parce que c'était une découverte sur la lumière et surtout sur l'ombre. Qui est, comme on dit que le silence est une catégorie du langage, on pourrait dire que l'ombre est une catégorie de la lumière. Ça n'est pas le contraire de la lumière, et je pense même qu'il y a une part de lumière dans l'ombre, et que l'ombre permet de montrer, de faire passer des choses de l'être humain que la pleine lumière ne fait pas toujours passé, et que je me suis aperçu justement dans ce travail, grâce à cette boîte de très grande lumière, et le moment où l'acteur qui était toujours dans l'ombre montait dans cette boîte de lumière, il était complètement déréalisé et il changeait d'état de réalité. C'est la première fois que je l'ai vu de mes yeux. Et donc, on voit que la lumière est une grande aide pour dénaturaliser et pour passer d'un état de réalité à un autre état de réalité, et donc faire la démonstration sous nos yeux qu'il y a plusieurs états de réalité. Et s'il y a plusieurs états de réalité, c'est probablement qu'il n'y a aucune réalité. Mmh. Et que donc, évidemment, on se sert de la lumière pour faire de la métaphysique, ce que je suis d'ailleurs tout à fait incapable de faire, mais je peux pas faire le contraire. Qu'en réfléchissant sur ce que je vois sur la scène, quand je travaille avec de la lumière et des acteurs, tout d'un coup, ces choses-là qui ont l'air compliquées apparaissent avec une évidence absolument simple. Mmh.
Et pour approcher votre démarche, c'est intéressant de lire ce texte que vous avez écrit sur Mélancolia Théâtre, parce qu'on voit comment vous êtes parti d'un roman, Mélancolia 1, de John Fosse, pour faire tout à fait autre chose, qui n'a rien à voir avec une adaptation théâtrale d'un roman. Vous avez pris des éléments de l'écriture pour créer en fait des images et transmettre, comme vous le faites dans chacun de vos spectacles, des sensations, donc pour faire du théâtre.
Oui, sauf que justement, je ne sais pas très bien comment définir le théâtre. On m'a d'ailleurs toujours
reproché de ne pas en faire. Vous n'en faisiez pas.
Mais moi, j'aime bien ne pas en faire. Mais alors, à ce moment-là, on me répond... C'est quand moi, je dis que je n'en fais pas, comme les gens, l'esprit de contradiction, ils me répondent qu'au contraire, évidemment, puisqu'il y a un texte mis au premier plan de l'action théâtrale, que ce texte est transmis par un acteur dans un espace vide, que c'est précisément la naissance du théâtre. C'est l'essence même du théâtre, en fait. Mmh. Je crois que revenir à l'écoute de l'écriture au lieu de faire un spectacle démonstratif, et je crois qu'en revenant à l'écoute de l'écriture, on revient à l'écoute de l'inconscient, et que ce que je représente sur les scènes, c'est plutôt l'inconscient de l'écriture que la réalité, la croûte extérieure de la réalité apparente.
Oui, vous citiez tout à l'heure le mot de Sarah Kane, « Rien qu'un mot sur une page, il y a le théâtre ». Et là, avec Mélancolia, c'est rien qu'un fragment, et on entend toute la matière du livre.
J'espère, je crois, Fauss a eu la gentillesse de le dire, mais je crois quand même que c'était vrai. C'est-à-dire, il y avait en fait 30 pages d'un livre qui doit en faire 260. Donc c'était presque rien. Mais c'était un moment où tous les éléments du roman se rencontraient, se croisaient, s'entrecroisaient, justement dans un moment de délire où les lieux était complètement mélangé, où les gens étaient complètement mélangés, où cette frontière dont parle Sarah Ken, que la maladie abolit, entre moi et ce qui n'est pas moi, et ce qui est autour de moi. Et là, dans Mélancolia, c'était tout à fait symptomatique, mais donc, on traitait, je crois, de choses qu'on retrouve dans l'ensemble du livre. Mais en fait, ce sont deux démarches très différentes. Ça n'annule pas du tout la beauté du livre et l'importance de la totalité du livre. Mais l'exercice a en effet porté sur une matière qui était condensée et qu'on a développée dans le travail, dans l'imaginaire des comédiens, qui essayait de rendre compte de la totalité du livre. Mais je pense que l'adaptation théâtrale d'un roman est toujours épouvantable. En général, c'est un gâchis. Il y a qu'à voir tout ce qu'on a fait avec Dostoïevski, par exemple. La seule façon de faire, c'est de prendre un extrait très court d'un roman Dostoïevski et de montrer cet extrait-là. Mais on ne peut pas rendre compte. Parce qu'en général, quand on veut prendre un roman entier, on garde les dialogues et on flingue tout le reste. Et l'essentiel est justement dans le reste.
Oui, mais alors il y a quand même des points communs entre tous ces textes que vous avez montés dans les dernières années. Justement, vous parliez de frontières, c'est la question des limites et du déplacement des limites et de savoir peut-être ce qu'il y a derrière, en dehors des limites.
Ben, je pense que c'est une exploration. Je pense que des gens comme Tarkovsky au cinéma l'ont aussi beaucoup exploré. Je crois que c'est en général déjà un refus d'être simplement matérialiste. Et c'est une voie très difficile parce que Fauss en parle de ça beaucoup. Je crois que dans Sarah Ken, et spécialement dans 448 Psychose, il y a quelque chose d'extraordinairement mystique. Elle dit une réplique très étrange. Elle dit « Va te faire foutre Dieu parce que tu me fais aimer quelque chose qui n'existe pas. » Mais ça veut dire, elle a d'ailleurs perdu la foi très tard dans sa vie, ça veut dire qu'elle aime Dieu en sachant qu'il n'existe pas, mais qu'il y a un amour de quelque chose qu'il faudrait pas appeler Dieu, mais simplement de quelque chose qui est d'une dimension qui dépasse ce qu'on appelle la matière. Comme si d'ailleurs il n'y avait pas d'esprit dans la matière. Il y a probablement de l'esprit dans la matière. Et ce qui est, je crois, très dommageable, c'est de réduire l'homme à une dimension moyenne en voulant le maintenir dans une science matérialiste qui maintenant donc est démentie par l'astrophysique. Pourquoi je lui donne tellement d'importance? Et je crois qu'il est très important de rétablir la complexité de l'homme, de rétablir ses contradictions et de rétablir toutes les questions qu'il pose au lieu d'essayer d'en faire un ensemble de solutions.
Alors Claude Régis, dans ce livre, L'état d'incertitude, il y a donc ces textes sur John Fauss, mais également sur ce jeune auteur écossais dont vous parliez en début d'émission, il y a 25 ans à l'époque, David Arrower, dont vous avez monté Des couteaux dans les poules. Et le hasard fait que, en fait, John Fauss a traduit aussi en norvégien cette pièce. Mais ça, vous ne le saviez pas.
Je l'ai appris tardivement. Ouais.
Et là, alors, l'incertitude, elle s'applique au langage. C'est la mise en doute du langage. Un peu.
Oui, et je crois que ça commence par là. C'est-à-dire, c'est d'enlever encore une illusion. C'est-à-dire que le langage est très impuissant à dire ce qu'il veut dire. Dès qu'on sort du langage utilitaire, encore que même dans le langage utilitaire, on peut percevoir énormément de choses de l'état psychique de la personne qui demande une baguette de pain chez le boulanger. Déjà, on peut entendre dans les vibrations de la voix énormément de choses. Mais dès qu'on essaye de faire une œuvre et qu'on essaye d'écrire, on s'aperçoit que le langage est impuissant à dire. Et qu'en même temps, je crois, on s'aperçoit que si on trouve la manière de dire, ça n'est pas intéressant du tout. Et que donc, il faut trouver une manière d'écrire qui fait transmettre quelque chose qui n'est pas vraiment dit. Et c'est ce que Fausse, d'ailleurs, dit beaucoup. Et Auer, dès la deuxième scène, tapait très, très fort là-dessus avec une femme complètement inculte, une paysanne tout à fait naïve, qui s'arrêtait devant une flaque et qui s'apercevait qu'une flaque peut être claire, transparente, ou qu'elle peut être opaque si elle est boueuse, par exemple. Elle demandait à son laboureur de mari quelle était la différence. Elle lui n'en voyait aucune. Il disait flaque, toujours flaque, flaque claire, flaque sombre, toujours flaque. Mais il y a des milliers de flaques et il y a les reflets dans les flaques et il y a ce que la sensation de celui qui regarde la flaque projette dans la flaque. Donc tout ça est parfaitement indicible et il faut écrire un livre entier pour transcrire peut-être la sensibilité, l'émotion que peut transmettre une flaque. Elle parle des pattes d'oiseaux, des traces des pattes d'oiseaux qu'on peut lire à travers l'eau d'une flaque, par exemple. C'est tout un poème qui peut se faire. Donc, c'est la naissance de l'écriture. Et cette femme, d'ailleurs, écrira une nuit, comme ça, dans un sommeil, une page entière qu'elle va lire. Et on voit là la naissance de l'écriture qui est faite dans l'inconscient de la nuit et qui est faite mêlée très fort au désir sexuel. Donc on ne sait rien de l'écriture et on ne sait seulement qu'il ne faut pas dire ce qu'on veut dire. Et ce qu'on ne peut pas dire, on ne peut que l'écrire. Mais on ne peut pas l'écrire en le résumant en une phrase. On ne peut pas le réduire à une formule. On ne peut pas simplement se servir de la syntaxe et des définitions des dictionnaires. Donc ça, c'est l'invention de la poésie. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est que ce miracle-là.
L'état d'incertitude, le livre de Claude Régis, est publié aux Solitaires intempestifs. Et puis, je rappelle 448 psychoses de Sarah Kane au Bouffe du Nord jusqu'au 9 novembre. Du jour au lendemain, Pascal Bénard, Bernard Troton, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.
C'était un numéro du jour au lendemain avec Claude Régis au micro d'Alain Weinstein, diffusé pour la première fois le 6 novembre 2002 et réalisé par Bernard Treton.